le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Après les émeutes et entre les dégâts et les problèmes de financement, les centres de formation des apprentis ont dû se réorganiser pour accueillir les alternants. Alors comment fonctionnent-ils aujourd'hui? C'est le thème de notre magazine citoyen. Autour de la table pour en parler, Charles Roger, le directeur général de la CCI, David Leclerc, le responsable des écoles de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes aussi avec la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Elisabeth Rivière, et Laurent Chouilly, le directeur du centre de formation des apprentis de la CMA. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi pour ce magazine citoyen. Peut-être pour resituer le débat et avant de parler de l'avenir, revenir un petit peu sur les événements passés et mai 2024. Il y a eu beaucoup de dégâts, notamment du côté de la CMA pour les alternants, notamment. Comment ça s'est passé et concrètement, quelle est l'étendue des dégâts, Elisabeth Rivière?
Alors oui, effectivement, notre centre de formation situé sur Nouville a été à 90% détruit sur la période de mai 2024, mais pas que, puisqu'on sait que aussi fin novembre, début décembre, il a à nouveau brûlé. Donc nous avons dû nous réorganiser dès 2024 et nous avons pu bénéficier déjà dans un premier temps de salles mises à disposition par la CCI. Mais compte tenu de leur formation, nous avons dû aussi trouver d'autres solutions. Donc nous profitons pour les remercier de cette mise à disposition. Ça a été un véritable soutien. Nous avons donc pu bénéficier d'une école qui ne fonctionnait plus sur la ville du Mont-d'Or. On remercie aussi la ville du Mont-d'Or. Cet établissement se trouve à Yaoué. C'est notre base de la formation où sont mis en place tous les enseignements généraux et le lieu de regroupement de l'ensemble de nos formateurs et de nos alternants.
Et il y avait d'ailleurs une rentrée cette semaine.
Il y avait une rentrée cette semaine et c'était hier. Et pour nous, c'était une grande fierté puisque nous avons pu, malgré les difficultés de financement de ces centres, pouvoir remettre en route une bonne partie de nos formations. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur tout ce qui touche au financement. Et nous avons dû aussi nous redéployer dans certaines entreprises pour pouvoir utiliser leur plateau technique.
Alors justement, la CCI a été épargnée par les dégâts, Charles Roger. Pour autant, on le voit, vous avez travaillé en coopération avec la CMA. Est-ce que ça a bousculé votre planning?
Alors, on a été épargné physiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de destruction de nos installations. En revanche, l'année 2024, elle a quand même été très sinistrée au niveau de l'alternance à la CCI, puisqu'on avait prévu d'accueillir 260 alternants en 2024 et qu'on n'a pu en former que 160. 160 parce que avec la crise du nickel d'abord et surtout avec les émeutes de mai 2024, on a des jeunes qui n'ont pas trouvé de contrats d'alternance parce que les entreprises ont été particulièrement impactées. Donc, soit elles étaient en passe de trouver un contrat, de signer un contrat et le contrat n'a pas pu être signé, soit elles étaient en contrat et l'entreprise a été détruite et du coup, les jeunes ont perdu leur contrat. Donc, c'est plus de 100 jeunes qui ont été mis sur le carreau. Nous, effectivement, quand on a regardé tristement les dégâts qu'a subi la CMA, quand on voit la qualité de leur plateau technique, l'outil que c'était pour le territoire, on a voulu faire preuve un peu de solidarité parce que c'est essentiel que ce type de formation puisse se poursuivre.
Vous avez eu une baisse des effectifs aussi du côté de la CMA, Laurent Chouilly, peut-être ?
Oui, totalement. Actuellement, nous sommes plus sur un plafond à 200 stagiaires par an, alors que nous étions sur une année glissante, puisque finalement, on a plusieurs titres. Hein. On a un titre professionnel des BP et des CAP. En fait, on pouvait être du côté des 280, voire 340 stagiaires par an.
Et donc, c'est une baisse significative pour les différentes structures. Mmh. La perte de ce plateau technique, vous le disiez, c'est un élément important. Elisabeth Rivière, est-ce qu'on peut se relever d'une perte comme celle-ci? En termes d'offres de formation, notamment?
Alors, on se relève, mais difficilement. Le quotidien pour l'ensemble des équipes et des formateurs n'est pas facile pour l'ensemble des alternants aussi, parce que c'est des plateaux techniques sur tout le territoire de l'agglomération, donc beaucoup de déplacements, beaucoup aussi de difficultés, parce que les plateaux techniques qu'on rencontre dans les entreprises sont adaptés pour les entreprises, mais pas forcément pour de la formation. Nous devons nous adapter. C'est aussi une des capacités d'un chef d'entreprise, c'est de devoir s'adapter. Nos jeunes sont, on va dire, en véritable formation, parce que effectivement l'année dernière, certains d'entre eux ont perdu leur contrat, hein, comme pour les jeunes de la CCI. Mais nos entreprises ont quand même rapidement joué le jeu, et malgré leurs difficultés, elles sont intervenues soit pour accueillir des jeunes qui avaient perdu leur contrat, ou soit pour nous accueillir dans leurs propres entreprises en dégageant des jours pour qu'on puisse poursuivre les formations.
Alors David Leclerc, je sais que les étudiants de l'EGC notamment travaillent sur les secteurs qui ont connu des crises à travers le monde, un peu similaire à ce qu'a connu la Nouvelle-Calédonie, pour voir comment s'adapter et changer peut-être le modèle économique. Les programmes évoluent aussi pour les alternants. On prend en compte ce qui s'est passé en 2024 ?
Bah, disons que forcément on a une nécessité d'adaptation déjà dans la recherche des entreprises, c'est le point crucial pour pouvoir intégrer l'alternance. Là sur 2025, le bilan est pour le moment, pour les formations qui ont débuté, plutôt positif, puisqu'on a signé près de 90% des contrats sur les formations que nous avions décidé d'ouvrir. Néanmoins, nous on prépare aussi nos étudiants à de potentielles autres difficultés à venir, que ce soit dans leur vie de salarié ou de vie de chef d'entreprise. Et en ça, on travaille effectivement sur les aspects économiques, mais on travaille également tout simplement sur la capacité à travailler à distance. C'est ce qu'on fait depuis le Covid, et on instaure depuis maintenant 4 ans une semaine de formation à distance qui a finalement nous a servi en mai, puisqu'on a assuré 95% des cours pendant près de 6 semaines consécutives à distance. Et ça nous a permis de maintenir d'une part les cours, mais aussi de garder le lien avec les étudiants et de leur permettre de conserver un lien avec l'école et avec l'extérieur.
Alors, avec les chiffres que vous nous donnez et avec l'expression d'Elisabeth Rivière que je vais reprendre, les entreprises semblent jouer le jeu, effectivement, pour embaucher des jeunes en alternance. Ça veut dire que c'est un mode de formation qui convient particulièrement au tissu économique calédonien ? Si quelqu'un veut répondre.
Aujourd'hui, toutes les parties, les institutions, les entreprises, les organismes de formation reconnaissent l'alternance comme le meilleur outil d'insertion. C'est-à-dire que je vais vous donner les chiffres de la CCI, mais sur 100 jeunes qui rentrent en formation, on a très peu d'érosion, donc de jeunes qui arrêtent leur scolarité, ce qui est déjà un indicateur important et qu'il faut regarder dans tous les organismes de formation. On en a 90 qui vont jusqu'aux examens. Ensuite, on a, à chaque fois, c'est quasiment 90% qui réussissent leurs examens. Et ensuite, on en a 90% qui s'insèrent. Donc, on voit que le taux d'insertion par rapport au nombre de jeunes qui rentrent est très élevé. Et ça, pourquoi ? Bah, parce que les maquettes pédagogiques, elles sont partagées avec les entreprises, parce que les entreprises, parce que les jeunes, ils sont en entreprise, et on sait qu'ils sont employables immédiatement à leur sortie de scolarité. Et ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, l'entreprise, on a des petites entreprises en Nouvelle-Calédonie, elles ont été très sinistrées. Il faut absolument que le jeune, quand il rentre dans l'entreprise, il soit opérationnel tout de suite. Et ça, l'alternance, il n'y a pas mieux que l'alternance sur ce sujet.
C'était vrai hier et ça l'est davantage encore aujourd'hui.
Ça l'est encore plus aujourd'hui. Et moi, je reviens sur ce qui s'est passé en 2024. En 2024, on voit bien que ce qu'on a rencontré, c'est aussi une crise d'insertion de la jeunesse. C'est aussi des jeunes qui se sont exprimés parce qu'ils n'étaient pas forcément dans un système économique, dans un modèle économique qui était prospère pour eux. Et aujourd'hui, on voit bien l'importance qu'a l'insertion des jeunes en Calédonie.
Et comment on va chercher justement ces jeunes qui seraient peut-être, qui auraient été victimes de décrochage scolaire ou autre, et pour les emmener dans ce type de formation ? Est-ce que c'est possible ?
Tout est possible. tout est possible. Et effectivement, je pense qu'on a chacun nos sensibilités. Nous, on va être un peu plus proche de ces publics en grande difficulté. Nous avons un outil existant en métropole avec SEMA France, qui est la préalternance. Donc, c'est un outil que l'on regarde déjà depuis un certain temps. On est allé aussi l'an passé dans des centres en métropole qui sont des EHPID, qui accueillent les jeunes avant qu'ils puissent rentrer dans ces centres de formation. Parce que souvent, quand ces jeunes rentrent en centre de formation, il peut y avoir de l'érosion parce qu'ils ne sont pas encore prêts à rentrer en formation et qu'il y a soit du savoir-être ou du savoir-faire à réacquérir avant de rentrer en formation. Alors oui, tout le monde parle du RSMA, oui, nous sommes partenaires avec le RSMA. Nous travaillons avec le RSMA pour prendre une partie de ces jeunes. Après, c'est un public particulier, il vient dans notre centre de formation en tenue. Tous ces jeunes ne sont peut-être pas dans cette optique de pouvoir être en tenue militaire pour être formés. Donc nous devons réfléchir, je crois, et l'ensemble des politiques, on doit se pencher sur cette part de cette jeunesse qui a besoin d'avoir peut-être d'autres outils en amont avant de rentrer dans nos centres de formation. Donc nous espérons pouvoir mettre en place une expérimentation avec le CFA pour essayer de prendre une dizaine de jeunes, hein, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus, qui sont très éloignés de l'emploi et qu'on voudrait remettre un peu dans ce circuit et pouvoir après avec eux travailler leur projet professionnel et leur projet d'insertion dans le monde économique.
Alors aujourd'hui, est-ce que l'alternance s'adresse uniquement à ces publics-là qui sont peut-être éloignés de l'emploi ou est-ce que ça recouvre finalement tous les diplômes et tous les secteurs d'activité ? C'est important peut-être de rappeler un petit peu ce qui est disponible en offre de formation.
Alors l'alternance, bien souvent, hein, je crois qu'elle a eu au départ une mauvaise image. On disait aux jeunes qui étaient en difficulté dans le système scolaire, et ça a fait très mal à tous les métiers dont on représente, que tu iras en alternance ou tu seras apprenti parce que tu travailles mal à l'école. Alors, c'est complètement faux parce que on a beaucoup de jeunes qui viennent, en tous les cas, dans nos secteurs, hein, qui sont des métiers manuels, qui viennent dans nos centres parce que c'est un métier qu'ils ont choisi de faire. C'est leur métier passion. Et ces jeunes, ils sont en grande réussite scolaire. Ils viennent pas dans notre centre parce qu'ils ne sont pas en réussite, mais ils ne se voient pas faire un autre métier ou poursuivre des formations assez longues parce qu'ils ne voient pas quels pourraient être leurs débouchés dans leur carrière professionnelle. Donc, on accueille tout type de public et beaucoup de publics en réussite.
À la CCI, c'est un public un petit peu différent aussi ?
Alors, on a un public qui... Nous, on a une offre de formation qui va du niveau bac au niveau bac plus 3. En Calédonie, on va du niveau CAP, qu'on appelle maintenant le niveau 3, jusqu'au master. Donc, la palette est large. Et je pense que, comme le disait la présidente Rivière, c'est un outil qui est effectivement réservé à ceux qui ont une idée relativement précise de leur insertion, de leur vision métier. Mais c'est aussi un moyen d'intégrer une formation et de se découvrir et de pouvoir ensuite, on va dire, se projeter en compétences et donc évoluer. On a des cas comme ça de gens qui sont rentrés en CAP, en BEP, en bac et qui ont poursuivi jusqu'au master, alors que à l'origine, effectivement, on les considérait à l'extérieur comme des gens qui devaient aller vers l'alternance parce qu'on savait pas quoi faire d'eux. Et en fait, ils se sont révélés en trouvant un métier et en trouvant un mode de fonctionnement qui leur convenait.
Et est-ce que le 13 mai a eu un impact sur les effectifs en termes d'alternants ? On l'a vu sur les entreprises, mais est-ce qu'il y a plus d'alternants aujourd'hui parce que c'est une formation qui convient bien ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est difficile pour des jeunes de s'insérer dans ce type de formation ?
Alors, après les exactions du 13 mai de 2024, nous avons perdu au CFA entre 27 et 37 stagiaires, dans un premier temps. Pour quelle raison ? Parce que finalement, il n'y avait pas d'activité dans les entreprises, mais pour autant, nous avons accompagné tous les alternants dans la reprise pour avoir recours à d'autres contrats. Et donc, nous avons pu accompagner bon nombre de stagiaires de manière à ce qu'ils retrouvent une entreprise, de manière à ce qu'ils poursuivent leur parcours formatif. Donc, on est conscient finalement que nous avons eu des pertes, mais que derrière, en fait, il y avait une forte demande.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette demande, elle est toujours aussi forte après le 13 mai? Alors, et en 2025
oui. Pour être très clair sur les premières années, par exemple, nous avons sur une centaine de stagiaires, près de 82 contrats uniques d'alternance qui ont été signés à ce jour. On continue, bien évidemment, plus on s'approche en fait, de certaines dates, de l'objectif final d'avoir 100% des contrats. Mais nous restons particulièrement confiants dans l'atteinte de ces objectifs.
Juste pour rebondir, pour vous donner l'attrait quand même de l'alternance et des métiers que nous représentons, nous travaillons bien sûr avec le point A, avec la CCI, et donc 500 jeunes ou moins jeunes ont fait des demandes pour rentrer dans notre CFA et nous ne pouvons en accueillir aujourd'hui en première année que 110. Donc c'est vrai que nous devons nous interroger sur le reste de cette population qui, nous pensons, aujourd'hui ne trouvera pas de formation ou d'outils, en tous les cas, pour s'insérer professionnellement. Et nous devons vraiment réfléchir à cette partie de cette jeunesse et de ces moins jeunes, parce que nous avons des gens qui ont perdu leur emploi au mois de mai et qui essayent de se reconvertir. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas accueillir tous ces publics. Et bien aussi... faute de moyens techniques aujourd'hui, mais faute de moyens financiers.
On va y revenir. Oui, allez-y.
Pardon, je préciserai que pour le point A, effectivement, nous avons pour 100 places au CFA, 500 dossiers ouverts ou utiles au point A, mais c'est près de le point A enregistré pour 100 places, 1000 dossiers. C'est-à-dire que finalement, 1000 potentiels stagiaires ont fait le déplacement. Donc, certains n'ont pas réussi les tests de sélection, mais ça reste quand même du 1 sur 10.
À la CCI aussi, la demande est supérieure à l'offre?
Oui. Alors, on a vu l'intérêt de l'alternance pour l'insertion. Aujourd'hui, pour mettre en place de l'alternance, il nous faut trois choses. Des jeunes, des entreprises d'accueil et des financements.
On allait y venir.
Et sur les jeunes, il n'y a pas de problème. C'est pas, le problème, il n'est pas au niveau des jeunes. Il peut être un peu au niveau des entreprises au regard des dégâts qu'il y a eu en 2024. Et encore, on trouve des entreprises dans beaucoup de domaines d'activité. Mais aujourd'hui, le principal problème, il est principalement sur les financements.
Aujourd'hui, vous n'avez pas de quoi fonctionner? Vous n'avez pas suffisamment pour vous relever, mettre en place le nombre de formations?
Le financement de l'alternance, c'est un financement... principalement issu financement public de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a été très sinistrée, des rentrées fiscales qui ont été très impactées, et aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'a réussi dans son budget 2025 qu'à sanctuariser 50% du budget normal pour l'alternance. Donc ça veut dire que les centres de formation qu'on représente sont impactés dans leur globalité de 50% de financement. Donc une capacité à former diminuée de 50%.
Et ça se ressent dans les offres de formation déjà? Vous avez déjà pris des décisions d'arrêter un certain nombre de formations?
Alors, pour la CCI, les formations qui avaient été ouvertes en 2024 et qui devaient se poursuivre parce qu'il y a une deuxième année ou parce qu'elles sont à cheval sur deux ans, elles sont financées. Donc il y en a 9 qui sont financées par la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, sur celles qui devaient ouvrir en 2025, on avait prévu, grosso modo, d'ouvrir 10 formations en 2025. Le calendrier de ces formations faisait que la CCI, elle a dû prendre des décisions sans avoir la validation du budget de la Nouvelle-Calédonie, parce que les rentrées devaient se faire en février. C'est des diplômes qui ont un calendrier qui est fixe. Et donc, sur ces formations-là, la CCI avait décidé d'ouvrir ces formations en mesurant le risque qu'elle prenait. Donc, sur ces formations qu'on a décidé d'ouvrir, il y en a 5. Et aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'est pas capable de les financer. Ensuite, il reste les 5 autres formations qui ne sont toujours pas ouvertes. Et là, sur ces questions-là, ben, on est en train d'étudier si il est pertinent ou non d'ouvrir ces 5 formations complémentaires.
Concrètement, vous fonctionnez à perte aujourd'hui sur l'aspect formation.
Oui.
À la CMA.
Alors, pour la CMA, nous avions comme pour la CCI, donc nous avions l'information que les deuxièmes années commençaient en 2024, donc seraient financées, mais que les premières années, il y avait une grande incertitude compte tenu des financements de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avions décidé de ne pas ouvrir nos premières années, malgré le timing, malgré le calendrier, parce que compte tenu des budgets de reversement dont sont attributaires les chambres consulaires, nous savions que nous allions avoir aussi une baisse de nos centimes additionnels. Et financer une première année, ça veut dire qu'il fallait aussi prévoir le financement, peut-être pour les deuxièmes années en 2026. Donc les budgets étant conséquents, nous avions préféré ne pas ouvrir du tout les sections. Et nous avons eu la bonne surprise, on va dire, c'est une surprise, on va dire, à moitié, de pouvoir être financé sur une part de nos premières années. Nous avions 11 sections de prévues sur cette rentrée. 8 ont été financées et il en restait 5. Alors, 5 sections, nous avons décidé quand même aujourd'hui de les ouvrir et de pouvoir mettre en place ces formations, sachant que nous allons impacter le budget de la CMA en général. Mais nous pensons que si ces formations ne sont pas mises en place, dans 2 ans, la main-d'œuvre va aussi manquer pour nos entreprises. On a perdu déjà 412 entreprises depuis les émeutes de mai. Et la perte de ces entreprises fait aussi donc la perte de compétences. Et nous avons besoin à tout prix de former ces jeunes et ces moins jeunes pour qu'ils puissent être soit des salariés ou demain des futurs chefs d'entreprise. Et pourquoi pas prendre aussi reprendre des entreprises qui aujourd'hui ont perdu peut-être leur chef d'entreprise ou des départs seront, on le pense, encore d'actualité dans les prochains mois.
Est-ce que vous allez vous concentrer sur ces métiers en tension, peut-être pour justement avoir de la main-d'œuvre plus tard? Est-ce que c'est un objectif d'aller sur les métiers où il y aura le plus besoin de personnel demain?
Bien sûr, et c'est notre quotidien, quoi qu'il arrive, même quand il n'y a pas d'émeute. Notre quotidien, c'est de toujours mettre des formations en place qui correspondent aux besoins du terrain et aux besoins de nos chefs d'entreprise. Les formations ne sont mises en place que parce qu'il y a un besoin et on ne forme pas dans des métiers où il n'y a pas de débouchés pour les gens formés.
David Leclerc, c'est aussi vraiment une volonté à la CCI, on le sait, de ne pas être hors sol et d'être vraiment intégré dans le tissu économique.
Oui, complètement. Il n'y a aucune formation par alternance qui ne pourrait s'ouvrir si on n'avait pas les entreprises pour accueillir des alternants. Donc c'est un principe de base, un principe de réalité. Si on ne répond pas aux besoins du terrain, le terrain ne voudra pas des alternants.
Est-ce que il n'y a pas des effets pervers parfois d'entreprises qui auraient tendance à prendre un alternant, puis un autre, et de ne pas finalement bien titulariser ou embaucher réellement la personne derrière?
Alors pour moi, c'est jamais un effet pervers. Oui. C'est toujours l'entreprise qui prend un alternant, elle passe beaucoup de temps à le former. Donc peut-être qu'elle n'a pas les moyens de l'embaucher derrière, mais elle aura joué un rôle dans la formation de ce jeune et dans notre système économique. Donc pour moi, ce n'est pas pervers et au contraire, on les remercie parce que prendre un alternant, c'est passer beaucoup de temps et souvent, c'est un coût pour l'entreprise. Donc il faut en tous les cas accompagner ces entreprises et... Je le regrette un peu, ça fait plusieurs années que l'on demande que les entreprises qui accueillent des alternants elles puissent bénéficier aussi de financements comme il existe en métropole. Et il existe donc un financement qui est délivré par l'État et qui octroie aujourd'hui actuellement 5 000 euros par entreprise qui accueille des alternants. Mais malheureusement, et on le sait, hein, compte tenu des financements de la Nouvelle-Calédonie, ça fait 2 ans qu'on essaye de faire mettre en place cet outil qui est indispensable parce qu'un alternant qui commence dans une entreprise il a forcément, il crée un coût pour cette entreprise. Il utilise de la matière première, il utilise du temps de salarié ou du chef d'entreprise. Et donc, cette compensation financière pourrait aussi permettre à nos entreprises en difficulté de continuer à accueillir des alternants.
Aujourd'hui, c'est un appel au pouvoir public, notamment au gouvernement, de mettre les moyens sur l'alternance pour justement faciliter l'insertion des jeunes. C'est ça le message que vous passez ce midi ?
Alors oui, c'est le principal message, hein, que l'alternance, c'est le meilleur outil d'insertion des jeunes et qu'il y a besoin de le préserver impérativement et qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Moi, je voudrais aussi rebondir sur ce que disait la présidente de la CMA. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que quand l'entreprise accueille un alternant, elle joue une mission de service public. Elle permet l'insertion d'un jeune. Et ça lui demande beaucoup d'énergie, du temps, de l'argent, puisqu'elle rémunère l'alternant. Et alors que l'alternant, il est en partie en entreprise, mais aussi en partie en organisme de formation. Donc l'entreprise, ça représente un vrai investissement pour la société.
L'entreprise transmet son ADN. Et plus largement en ce qui nous concerne, en fait, l'esprit de l'artisanat, mais aussi elle participe activement à la réussite du parcours formatif. Actuellement, la formation en alternance, c'est une semaine passée au CFA et 3 semaines en entreprise. On pourrait dire que finalement, l'entreprise participe à hauteur de 75% de la réussite du jeune. Donc finalement, c'est une démarche gagnant-gagnant, l'alternance.
Alors, on parlait beaucoup de financement et de moyens aussi pour les parcours en alternance. On le voit, il y a de plus en plus de formations disponibles sur le territoire. Est-ce que vous êtes dans un travail aussi de mutualisation, peut-être, soit des infrastructures, soit des formations ? Comment ça pourrait se mettre en place pour limiter les coûts ?
Alors oui, je crois qu'on est en plein dans la mutualisation. Tout le monde parle de mutualisation. On l'entend. C'est vrai que nous avions des plateaux techniques que demain, nous devrons reconstruire notre CFA. En tous les cas, c'est ce dont on s'engage à faire. Mais nous pensons que la reconstruction de ce CFA ne devra pas se refaire tel qu'il était existant et que nous devons travailler avec l'ensemble des organismes de formation qui ont besoin aussi de plateaux techniques. Comment cette reconstruction peut se faire en mutualisant les moyens et peut-être non seulement les moyens matériels, mais aussi les moyens humains, parce que nous avons peut-être des connexions à faire. Dans chaque formation, il y a des enseignements généraux, donc nous pourrions peut-être avoir des formateurs, parce que nous ne les appelons pas des enseignants, ce sont des formateurs, dans les enseignements généraux qui pourraient être sur l'ensemble des centres de formation, bien sûr avec des niveaux différents, mais je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons avancer, travailler dans un esprit de mutualisation, eh bien on doit se fermer sur rien, et justement, on doit travailler tous ensemble pour essayer de faire toutes les économies qu'on peut pour offrir le meilleur service à ces formations en alternance.
Charles Roger, vous acquiescez ?
Oui, bien sûr. La mutualisation sur l'alternance entre les chambres consulaires, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Hein. On a mis en place le point A, qui est le point d'orientation, on va dire, des jeunes sur l'alternance, qui travaille depuis des années, qui est très efficace, qui est un outil interconsulaire, qui rend service aussi à d'autres organismes de formation par alternance, hein, comme l'École du design ou d'autres organisations. Maintenant, je rejoins tout à fait ce qu'a dit la présidente de la CMA sur le fait d'aller plus loin dans la mutualisation des moyens humains notamment. La CMA avait un plateau technique qu'elle veut restaurer, qui était d'une qualité exceptionnelle et qui gagnerait à être aussi mutualisé. Oui, il faut aller vers de la mutualisation et aller plus loin que ce qui est déjà fait et qui marche aujourd'hui.
Sur le plateau technique, on en est où du projet de reconstruction ? C'est déjà dans les tuyaux ou alors il y a encore beaucoup d'études et de décisions à prendre ou un manque de financement encore peut-être ?
Vous nous connaissez, c'est toujours dans les tuyaux à la CMA. Cependant, c'est vraiment un projet qui est conséquent. Donc déjà, nous devons attendre le retour de l'assurance. Hein, c'est, je crois que tous nos chefs d'entreprise sont confrontés aux assurances. Nous avons demain un séminaire avec la FEDOM qui abordera ce sujet. Et nous devons aussi travailler sur le lieu de la reconstruction de ce centre et de trouver les financements complémentaires, puisque vous savez que les assurances ne combleront pas tous nos besoins de financement. Donc nous travaillons aussi avec l'État pour que notre dossier puisse être aussi en part financé dans le cadre de la reconstruction.
Et vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous pour parler des enjeux de l'alternance. Il est midi passé de 30 minutes, c'est donc la fin de ce magazine. Dans un instant, le Café Gourmand et le prochain point sur l'actualité, ce sera à 13h avec le Flash.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.